Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, j'ai l'honneur et l'extrême joie d'accueillir mon professeur de violon, Xavier Vidal. Bonjour Xavier.
Salut, bonjour Mathilde.
Nous avons aux manettes toujours le grand, l'incontournable Armand Gall.
Bonjour Mathilde, bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors, c'est super parce qu'aujourd'hui, c'est en studio, donc ce sera en direct que l'on va vous entendre parler, Xavier, et ainsi que jouer aujourd'hui du violon. Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter parce que vous faites de multiples instruments et puis de la musique traditionnelle, du collectage, du bal. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup à dire. Alors, je vous laisse commencer.
Oui, mais j'ai toujours évolué un peu dans la musique depuis que j'étais enfant. Donc
le siècle dernier.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et puis bon, je me suis intéressé plus particulièrement aux musiques populaires et en particulier aux musiques aussi. C'était une découverte en faisant ce qu'on appelle le collectage, en allant voir les gens, découvrir. Au début, on cherchait plutôt des chansons, et puis on est tombé sur des musiciens, des instrumentistes, ça fait longtemps qu'on enregistre tout ça. Et après, le but c'était de jouer ces musiques. Voilà. Il y a eu un grand mouvement, on va dire un peu mondial, depuis ça va dire les années 1940 aux États-Unis. Et après, c'est venu surtout dans les années 60 en France, où on s'est mis comme ça à collecter, à enregistrer les musiques populaires en allant chez les gens, en demandant est-ce que vous connaissez des chansons, est-ce qu'il y en avait qui, dans le coin, qui jouaient un instrument.
Ah, d'accord. Alors, vous êtes originaire d'où ?
Alors, natif de Toulouse.
De Toulouse, et vous êtes venu vous installer...
Oh, mon pays, Toulouse.
Et vous êtes venu vous installer dans le Lot
Depuis 83.
Voilà.
1983.
À Cardaillac.
Oui, au début, j'habitais La Capelle-Marival, et puis Rueyre, Cardaillac.
Et vous êtes resté là.
Oui, c'est ça. Enfin, j'ai fait un petit... j'ai disparu du Lot quelques années. Je suis allé travailler à Toulouse au conservatoire de 2011 à 2019.
Oui, vous avez alors au conservatoire occitan de Toulouse, parce que cette émission va passer à Toulouse, donc sachez, auditrices et auditeurs, qu'il y a un conservatoire occitan.
Ah oui, alors on travaillait en collaboration avec le conservatoire occitan, mais on était au conservatoire à rayonnement régional.
D'accord, alors quelle est la différence?
Les conservatoires, disons, de musique classique, dans lequel il y avait une section de musique traditionnelle, et on travaillait en collaboration avec le... Maintenant, ça s'appelle plus Conservatoire Occitan, ça s'appelle Centre Occitan des musiques et danses traditionnelles.
D'accord.
Mais ça continuait, parce que moi j'ai arrêté, j'ai demandé à être à la retraite, j'avais droit, et donc c'est mon collègue, très très bon chanteur, Pascal Courmont, qui continue à coordonner cette histoire.
Et alors, c'était un diplôme qui peut se passer, qui s'appelle le diplôme d'État de musique traditionnelle.
Diplôme d'études musicales.
D'études musicales.
Ouais, bon, c'est ça. Alors, ça existe en toutes les disciplines. Si on fait du piano, c'est le diplôme final du conservatoire. Et là, ça existait aussi, on avait cette section de musique traditionnelle, ça existait donc pour les musiques traditionnelles. Donc la formation, ça durait 2 ans, et au bout de 2 ans, les étudiants passaient un examen. Alors il y avait des étudiants dont la spécialité c'était les musiques du domaine occitan, il y en avait d'autres c'était flamenco, et d'autres les musiques du Maghreb et les musiques orientales.
Donc la musique traditionnelle a maintenant aussi ses diplômes, parce que ça vous devez savoir Xavier, est-ce que ça c'est récent?
Oui, c'est récent. C'est tout à fait récent. Déjà, diplômer les profs, alors c'est les années 80, fin des années 80, et après, diplômer les étudiants, c'est tout à fait récent. Alors souvent, je veux dire, les musiciens ne cherchent pas spécialement le diplôme, parce que c'est la légitimité du musicien, c'est pas tellement d'avoir un papier. C'est plutôt le public. C'est compliqué. Alors là, si on commence à... Il peut y avoir des très bons musiciens, excellents instrumentistes qui n'ont pas de public. Et puis d'autres qui sont moins bons et qui ont ce truc de... Ce lien avec le public, cette façon de présenter des projets, que les organisateurs les engagent, voilà, c'est compliqué. Mais bon, c'est ça, la légitimité d'un musicien, c'est avoir un public. Après, alors le diplôme, ça sert, en particulier ce diplôme-là, de diplôme d'études musicales, ça voulait dire que le musicien était confirmé à un niveau instrumental ou vocal, à un niveau de connaissance culturelle de sa propre musique et à un niveau de connaissance culturelle des musiques du monde.
Mais c'est quand même très important parce que jusqu'à présent, les musiques populaires avaient, on va dire, piètre réputation par rapport à la musique classique, par exemple, ou même le jazz qui a réussi à monter. Ouais. Et puis, il y avait encore un peu... cette musique populaire qui est un peu à la traîne entre guillemets, j'aime pas trop dire ça parce que c'est vraiment un monde
C'est difficile parce que on passe d'une musique que les gens y pratiquent au quotidien, par exemple à la veillée ou dans des bals, des choses comme ça. On passe à une musique aujourd'hui qui est tout ce matériau est récupéré par des et réapproprié par des musiciens professionnels qui vont faire à partir de ça de la création, du disque, de la scène. Donc là, on est dans quelque chose qui a basculé complètement. C'est plus... Bon, si les musiques traditionnelles étaient vraiment populaires, encore à l'heure actuelle, elles se pratiqueraient au quotidien par les gens. Mais bon, les
gens... Dans la rue, quoi.
Dans la rue, à la maison, dans la famille. Bon, alors c'est le cas encore, hein, dans certaines familles. Mais les gens connaissent plus... Ils valorisent plus, par exemple, des choses qu'ils entendent à la radio. Et on est à la radio, bravo la radio.
Merci la radio. Hein.
Que, par exemple, des choses, des héritages de famille. Et des fois, ils ne sont pas tellement conscients. C'est comme les langues.
C'est ce que vous dites, c'est ça qui est intéressant, c'est que la musique traditionnelle que vous avez collectée, c'est qu'elle n'était pas juste pour un bal, une occasion, un événement, un instant T. Elle accompagnait les joies, les peines, les mariages, les enterrements, ouais. Les récoltes, le tassement de la terre, puisqu'il y a des danses qui sont faites pour ça, les veillées, les récoltes de châtaignes, c'était...
Et oui, c'est pour ça d'ailleurs que comme c'était très fonctionnel, par exemple, aujourd'hui on n'a pas. Moi j'ai enregistré des gens qui chantaient des chansons de moisson. Quand les gens moissonnaient à la main, ils chantaient, il y avait des chants qui accompagnaient. Par exemple, Jean-Olivier, qui habitait à Fons, me chantait des chansons de moisson. Ou Marguerite Casagou à Feissel, me chantait des chansons de moisson. Mais évidemment, quand l'agriculture est devenue mécanisée, les gens ont arrêté de chanter ces chansons-là, mais ils l'ont gardé dans la mémoire.
Alors, est-ce que vous nous chanteriez une chanson de moisson?
Ah oui, par exemple,
allez.
Je pourrais chanter Tzano Daime, parce que dans le Quercy, ici, la chanson de moisson la plus populaire, enfin, il y a plein de versions, mais c'était Tzano Daime. D'ailleurs, Jeanne, je vais chanter une version de Jeanne, elle disait... tu trouveras jamais personne qui connaît autant de couplets que moi de cette chanson.
Ah bon?
Et alors c'est l'histoire, c'est le monsieur qui rencontre la bergère.
Bien sûr.
Alors le monsieur il dit ta 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 ta, elle lui répond tic tac tac, tac au tac. Et donc elle a toujours une réponse, mais en fait on peut rajouter toujours.
Oui, on peut l'inventer son couplet.
C'est ce que je lui disais, Jeanne. Il faut pas me prendre pour un couillon. Je crois que tu en rajoutes chaque fois. Alors elle prenait son bâton et elle poursuivait autour de la table.
Alors, la chanson de Jeanne,
elle disait,
de moisson.
Ouais, je ne veux pas chanter les 30 couplets qu'elle connaissait. Un roc d'anglar, y'a no claro fonteno. Un roc d'anglar, y'a no claro fonteno. Sano daime iba kere de laio, sano daime iba kere de laio. Lo fil del rey solo la reencontrado, lo fil del rey solo la reencontrado. Sano daime tomati telebado, sano daime tomati telebado. Lo fil del rey la luna m'ha trompado, lo fil del rey la luna m'ha trompado. Sano daime du nome de tunaio, sano daime du nome de tunaio. Lo fil nel rei non hai vei renitascio, lo fil nel rei non hai vei renitascio. Sano daime du nome d'intaccascio, sano daime du nome d'intaccascio. Lo fil nel rei non hai pa preso il rado, lo fil nel rei non hai pa preso il rado. Ciano daime per tu trovo virano, ciano daime per tu trovo virano. Dernier couplet, ça dit Jeanne d'Aimé, c'est la fille, pour tout tu trouves une birade, une réponse.
Une réponse.
Mm. Une réponse. C'est vrai qu'elle lui dit, il lui dit, mais tu t'es levé très tôt ce matin, et lui dit, oui, oui, la lune m'a trompé. Elle lui dit, tu.
Il y a un fils de roi aussi, j'ai compris.
Ouais.
Vous avez compris, Armand ?
C'est le fils du roi qui répond. C'est le fils du roi qui questionne et la fille répond. Et alors ça peut durer très longtemps et les gens répondaient. Alors soit il y avait. Alors les gens moissonnaient à la main, à la faucille. C'était très pénible. Alors soit ils répondaient au meneur, soit le meneur chantait tout seul pour les encourager à des moments.
Est-ce que ça donnait un rythme à la moisson ?
Ouais.
Parce qu'il fallait quand même avoir un rythme.
Mais en même temps,
c'est
pas exactement le rythme du geste. C'est un peu décalé. Comme
oui,
si
là, j'ai essayé d'imaginer.
C'est pas mesuré. C'est un peu qu'on appelle la musique rubato, ça veut dire un peu libre dans l'accentuation. C'est pas régulier.
Ça va pas avec le geste.
Non, ça va pas avec le geste. Parce qu'avec le geste, il faudrait que.
Je me disais, c'est bizarre ce rythme parce que ça correspond pas à un rythme hyper régulier de qui peut y avoir de moisson. Moi, j'ai jamais moissonné ni à la main ni à la machine. Hein, mais...
C'est assez long, tous ces chants de moisson. C'est ce qu'on appelle les chants longs. Hein. C'est très. Puis même la mélodie, tout ça, c'est très simple. Il faut que ça soit un peu envoûtant.
Il y a une sorte de transe, en fait, qui se met pour aider le corps à continuer.
Par contre, les gens connaissaient bien le rythme quand ils faisaient le battage.
Ah oui.
Parce qu'il fallait battre au fléau.
Oui.
Et il fallait avoir ce qu'on appelle la cadence, c'est-à-dire que tout le monde a la même intention rythmique.
Oui.
Et alors déjà, ils apprenaient quand ils étaient petits. Alors ils disaient, par exemple, on te disait... je vais le faire.
Alors ils posaient le violon. Hein.
Alors ils disaient, on avait par exemple 4 batteurs, comment ça fait ? Alors toi, quand tu tapes avec ton fléau, c'est ça. Mm-hmm. Et quand les autres font, c'est ça. Donc,
tape sur les cuisses, tape sur le torse.
Ouais,
cuisse, torse.
Cuisse, torse, torse, torse.
Cuisse,
torse, torse.
On va essayer, Armand.
Voilà. C'est pareil, alors il faut le faire décaler, c'est-à-dire chacun a son temps fort, à son frappement, à tour de rôle.
Mathilde, je pense que vous ferez bien la Macarena.
je me suis entraînée.
Il faut que tout le monde soit vraiment très coordonné parce que sinon il pouvait y avoir des accidents.
Parce qu'avec le fléau, on remonte.
Et voilà, c'est ça.
Si on met un coup à celui d'à côté parce qu'il n'est pas au bon endroit.
Et oui, alors donc, il faut. Les gens, dans la société rurale ancienne, avaient des compétences rythmiques très très pointues et s'ils ne l'avaient pas, c'est handicapant parce que.
Ils faisaient autre chose.
Non, mais c'est pour ça, c'est que même la respiration et tout ça, ils l'apprenaient pas, mais ils apprenaient en faisant. Et c'est très important parce que sinon, comme les travaux étaient très durs.
Mm.
Ouais, c'est pas comme maintenant avec un téléphone portable.
Alors, chères auditrices et auditeurs, si jamais les dires de Xavier Vidal vous touchent ou que ça vous fait rappeler d'une chanson ou d'un rythme ou d'une musique, eh bien, nous sommes preneurs. Appelez donc la radio au Armand
05 65 348 348
ou vous envoyez un email au
fijac@radioprésence.com.
Voilà, et nous recevrons avec plaisir vos mélodies et vos chants, et je les transférerai à Xavier Vidal, qui sera certainement très intéressé, n'est-ce pas?
Ah, mais aujourd'hui, il ne faut pas dire, moi je suis assez admiratif, parce qu'il ne faut pas être passéiste. Moi je vous explique les choses qu'on a découvertes en parlant avec les gens, les anciens. Mais dans les pratiques contemporaines actuelles, il y a beaucoup de choses intéressantes aussi.
Moi, ah oui.
Faut vivre avec son temps.
Je sais bien.
Et des gens qui inventent avec des outils, ne serait-ce qu'en musique, tout ce qui est avec l'électronique et tout ça, moi, je suis assez admiratif.
Alors justement, de toute façon, ça se voit avec, rien qu'avec votre pratique musicale, parce que vous avez la voix ici, vous avez un violon à la main, qui est un violon peu commun d'ailleurs, un Kemo, qui a été construit par Gilda Beliego en quelle année?
Alors je ne sais plus l'année, mais alors Gilda Beliego, c'est intéressant parce que c'est un luthier fijacois qui a inventé une nouvelle fabrication du violon avec la caisse de résonance. Une partie de la caisse de résonance, c'est en matière composite, en fibre de carbone. Et voilà, c'est pour ça, c'est un violon particulier. Toute la caisse n'est pas en bois, il n'y a qu'une partie qui est en bois.
Et il a fait aussi des violoncelles comme ça.
Ouais.
Il a inventé un instrument, c'était vers les années entre 95 et 2000, je pense.
Voilà, peut-être.
Et puis vous faites quoi comme autre instrument? Parce que quand on vient chez vous, c'est la caverne d'Ali Baba.
Eh bien, c'est-à-dire qu'on a appris finalement à jouer avec les anciens. Et donc, on apprenait les instruments qui jouaient eux. Alors donc, l'accordéon...
diatonique et chromatique.
Les instruments avant, les cornemuses, les hautbois, les flûtes.
Et la boudègue.
Ouais, tout ça. Enfin, toutes les... Ouais, là, les gens, ils croient que la cornemuse, par exemple, il n'y a que les Écossais qui en jouent. Mais en fait, il y a plein de pays... le principe de la cornemuse, c'est un sac avec des tuyaux qui sonnent. Et il y a des quantités de formes.
Est-ce que vous avez déjà vu une boudègue, Armand?
Non, pas du tout.
Alors une boudègue, c'est une chèvre, c'est ça, hein?
Ouais.
Une peau de chèvre entière, c'est énorme. Ça sent la chèvre. Et il y a des tuyaux qui sortent. Et ça fait pout, ça fait bouette.
Quand on appuie sur le sac, ça sonne.
Ah oui, je vois ce que c'est. Si, j'ai déjà vu effectivement. Alors du coup.
Ouais, c'est ça.
C'est...
Non, mais on croit que la cornemuse, c'est les Écossais qui l'ont inventé, mais en fait, c'est un instrument très méditerranéen. Il y a plein de pays en Méditerranée qui le jouent. La Grèce, jusqu'en Irak, l'Afrique du Nord, l'Italie, l'Espagne, la France, voilà, tous les pays d'Europe ont des cornemuses. Ouais, enfin, on parle de la cornemuse, c'est une parenthèse.
Entre autres. Ouais. Vous faites également... alors, on vous a entendu chanter en occitan.
Ouais.
Alors, je suppose que c'est un occitan avec l'accent d'ici, c'est-à-dire du Quercy.
Oui. Alors, déjà, quand c'est chanté, c'est moins bien compris que quand c'est parlé. Mais bon, ça se comprend quand même. Et alors, les gens disent souvent... l'occitan, c'est ce qu'on entend à la télé, par
oui.
exemple, hein, les émissions de la télé en occitan. Et nous, on parle le patois. Alors, c'est un peu ambigu parce qu'en fait, évidemment, l'occitan, c'est tout ça. Parce que le patois que parlent les gens, chaque village a son patois. Ben, presque, aujourd'hui, c'est presque chaque famille. Il y a des gens qui continuent à le parler. En plus, c'est une langue qui c'était du quotidien. On parlait aux animaux en patois.
Et toujours, voilà. Hein.
Toujours.
Toujours, hein.
Et puis, il y a eu un revivalisme de la langue. Et donc, on s'est aperçu que c'était une langue qui était millénaire.
Oui.
Qui était écrite déjà au Moyen-Âge. La grande littérature des troubadours qui était connue dans toute l'Europe et tout ça. Donc, c'est une langue qui vient du latin, l'occitan. Qui est du sud de la France. Et donc, voilà. Et donc, il y a eu tout un engouement pour ça. Aujourd'hui, c'est enseigné dans les écoles. Il y a même des écoles spéciales qui s'appellent les calandrettes où les enfants apprennent l'occitan. Tout ça. On découvre qu'il y a toute une littérature, qu'il y a des gens qui chantent en occitan, qu'il y a du théâtre en occitan. Enfin,
voilà. Il y a une université à Toulouse aussi où on peut apprendre l'occitan.
Oui, exact. Donc, mais bon, comme les gens, comme, et à partir du moment où la langue est très diffusée, apprise, étudiée, tout ça, il y a une espèce de standardisation de la langue qui se fait.
Oui, forcément.
C'est alors donc, les gens ne reconnaissent pas plus dans cet occitan un peu standardisé le patois de leur village, de leur quartier, de leur famille. Parce que, alors ceci dit, les patois, et où les manières de parler particulières sont vraiment à étudier, parce qu'il y a des finesses de prononciation, des trucs comme ça, c'est formidable. Mais il suffit de donner quatre outils aux personnes pour comprendre que ailleurs ça ne se parle pas pareil, ils vont comprendre.
Et c'est ce que nous disait Josette Quintard dans une émission il y a quelques semaines, qui nous disait, alors moi je comprends bien Christian Mage, qui est un de vos amis d'ailleurs, et parce que j'ai appris le patois dans le Cantal, et c'est vrai qu'il y a des mots qui peuvent être différents, et des fois j'ai du mal à comprendre, mais du Cantal d'où je viens, ça correspond.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire, après, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans toute l'ère occitane, c'est très très vaste, c'est beaucoup plus que la région qu'on appelle Occitanie, parce qu'il y a toute la partie de Bordeaux, Gascogne, tout ça, jusqu'à Nice. Donc tout ça, c'est tout
Italie
le sud
aussi.
Ouais, il y a une petite partie en Italie. Donc évidemment, les gens ne peuvent pas parler pareil de Bordeaux à Nice. Donc, mais si on a les outils, on sait que par exemple à Bordeaux, ils parlent gascon. Alors les F, ce qu'on pense F dans le Lot, c'est là-bas, c'est le H aspiré. Par exemple, le fioc, le feu. Et là-bas, c'est le yok. Ah, avec le H aspiré. Le yok. Donc, ou le wek, ils disent même. Alors, bon, enfin, voilà quoi. Mais en fait, on peut, si on a quelques outils linguistiques, ce qu'on n'a pas permis aux gens, parce que les personnes qui l'ont appris de famille, eh bien, on ne leur a jamais dit que c'est une langue qui pouvait être écrite, qui pouvait être lue, qui pouvait être qu'on pouvait l'étudier en fonction de tous les dialectes qui existent, toutes les manières de parler. Et on ne leur a jamais dit, par exemple, qu'il y a 36 départements en France qui ont la même racine linguistique de la langue d'oc.
Non, même
et même, même pour la langue d'oï, hein, parce que la langue d'oï, on dit le français qu'on parle aujourd'hui, il est issu du français académique qui était parlé à Paris ou dans le Val-de-Loire, voilà quoi. Mais ne serait-ce que dans le français, il y a des prononciations, des vocabulaires.
Ah ouais, ça.
C'est entre le Bourguignon, le Normand et le je sais pas quoi moi et le Picard.
C'est entre le Breton et vous venez d'où, Armand?
Arles.
Ah, et alors, est-ce qu'il y a une différence entre Arles et Figeac?
Ah oui.
Oui, là-bas, c'est le Provençal.
Oui, donc... mais vous arrivez à comprendre, quand même, en étant ici?
Non, pas trop, non.
Ah, d'accord. Mais on vous a donné les techniques.
Oui, voilà. Mon père m'a appris quelques trucs, quand même.
Et puis, alors, je passe avec le Canadien, le Belge, et les Africains.
Mais, en fait, ça serait intéressant, en France, qu'on prenne en compte la diversité culturelle et linguistique, c'est énorme. Toutes les langues, il y a des langues très particulières en France, le basque, l'alsacien, le flamand, le breton, et on a une richesse formidable. Et au nom de ce truc, de l'académisme, c'est un peu un pays spécial, parce que toute culture périphérique est un peu suspecte. Que ce soit des cultures régionales, ou des cultures issues de l'immigration, ou des trucs comme ça, tout ça c'est suspect.
Mais c'est quand même... je trouve qu'en ce moment c'est quand même plutôt mis en avant. Maintenant, ça, et puis ça aide d'un point de vue touristique aussi. Alors juste pour revenir à la musique traditionnelle, ça, parce que ça en fait partie, Armand est en train de dire qu'il nous reste 3 minutes, parce que ça passe vite. Je vous ai demandé d'amener le violon, et du coup, quel morceau avez-vous choisi de jouer? Ou allez-vous choisir de jouer?
Je vais jouer une Scottish. Thank you.
Merci beaucoup, Xavier. Alors, le nom de cette Scottiche, c'est
Scottiche Deli Planard, qui était un musicien de Saint-Cyr-la-Popie, que j'allais voir souvent. Et voilà, il était accordéoniste, mais il m'a transmis des airs de sa jeunesse. Et voilà, j'avais bien joué ça. La Scottiche qui est une danse en couple.
Oui, et alors je pensais, moi, que cette Scottiche était de votre composition.
Ah non, non.
Bon, voilà, et eh bien
Eddie
j'ai...
Eddie Planard.
J'ai spoilé, comme on dit, la Scottiche d'Eli Planard.
Je l'ai souvent joué, mais elle est pas... moi, je l'appelle Eli Planard, mais avant Eli Planard, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui l'avait peut-être inventé. Ou... Alors, voilà.
Oui, bon, c'est ce qui...
Ça appartient à personne, quoi.
Ce qui arrive au répertoire, ce qu'on appelle traditionnel.
Ouais, c'est oral, c'est pas écrit. Donc, on ne sait pas qui c'est...
Vous essaie. L'avez écrit quand même, hein, parce que vous avez fait des recueils.
Mettre en mémoire.
On est loin de lister tout le travail pédagogique et puis de mémoire que vous avez fait pour la musique du Quercy. Mais vous avez quand même écrit un ou plusieurs recueils de musique du Quercy.
Quelques-uns.
au moins 1000.
C'est pour que ça se perde pas, quoi. Parce que c'est vrai. Mais en même temps, la meilleure technique d'apprendre ces airs, c'est tout à fait approprié, c'est à l'oreille. On n'a pas besoin de la partition, mais c'est un cas qu'on ne s'en souvient plus. Mais voilà, l'enregistrement ou quelquefois la partition, mais on peut s'en passer largement.
En tout cas, ça a été la technique que vous aviez en pédagogie, puisque vous avez été prof de violon depuis les années 80-90.
Oui. Mais c'est-à-dire que, oui, c'est l'intérêt de ces musiques, c'est que elles sont... leur forme, ça permet d'être comme ça mémorisé. On peut apprendre un air à l'oreille. Il n'y a pas besoin de... Bon, c'est pas comme une symphonie. Les symphonies, pour l'apprendre par cœur... C'est
moins répétitif.
C'est plus difficile, les structures sont plus compliquées. Donc ça, c'est tout à fait adapté à la mémorisation, et c'est ce qu'on fait. Et donc, la pédagogie de l'oralité, ouais, ça permet de se dégager de la partition, et c'est donc ça, une fonction pédagogique intéressante.
Et ben, on finira sur ces mots qui sont très encourageants. Merci beaucoup, Xavier. On n'a quand même pas fini avec vous. J'espère que vous reviendrez pour la prochaine émission, parce qu'il en reste tellement à dire.
Merci beaucoup, Mathilde.
Et merci, Armand.
Et Armand.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.